Bonjour, Jean-Claude Issaly pour la LPO Délégation Territoriale Aveyron. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission à tire d'aile. Aujourd'hui, je vais donner la parole à un de nos salariés, puisque la LPO Délégation Territoriale Aveyron a 5 salariés. Elle fait partie, bien sûr, de la LPO Occitanie. Donc aujourd'hui, je reçois Magali. Magali, peut-être tu peux te présenter.
Oui, bonjour à tous. Donc Magali Trille, je travaille à la LPO depuis 17 ans en tant que chargée d'études naturaliste.
Peut-être tu peux nous donner un petit peu les axes de ton travail, de ta mission ou de tes missions.
Oui, du coup, comme on est une petite équipe de 5 salariés, on est assez polyvalent. Et donc, dans mon métier de chargée d'études naturaliste, j'ai plusieurs missions. Notamment la connaissance des espèces. Je travaille sur la gestion et la préservation d'espaces, sur l'éducation et la sensibilisation de différents publics, et puis sur le développement de la vie associative.
Tout ça, ça peut nous donner quelques idées, mais ce serait intéressant que tu développes un petit peu ces axes-là. Et donc, on peut peut-être commencer par ce qui est la connaissance des espèces.
Oui, alors c'est un peu la base de toute association de protection de la nature, c'est de connaître le vivant, de connaître la faune et la flore qui nous entoure. Donc il faut savoir qu'à la LPO Occitanie Délégation Aveyron, on ne s'occupe pas forcément que des oiseaux, on s'occupe d'autres groupes d'espèces. Et donc, dans mes missions, je suis amenée à faire des inventaires sur les papillons de jour, sur les amphibiens et aussi bien sûr sur les oiseaux. Donc voilà. Donc prioritairement, en fait, je suis amenée à faire des inventaires sur le terrain pour nous permettre de faire un état initial de la faune présente afin de hiérarchiser les enjeux qui vont nous permettre par la suite de mettre en place des suivis ou plus loin des mesures de gestion. À cela s'ajoute aussi, nous n'avons pas la connaissance de tout ce qu'il peut y avoir comme espèce à un instant T. On utilise une base de données qui est alimentée chaque jour par des observateurs, qu'ils soient débutants ou confirmés, des observateurs bénévoles. Et cette base de données s'appelle Faune Tarn-Aveyron.
Donc ces connaissances-là, vous les développez à partir de demandes. Comment elles naissent, comment on se met à travailler sur une espèce en particulier, ou on répond à une commande?
Alors effectivement, nous accompagnons plusieurs acteurs du territoire. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, le conseil départemental de l'Aveyron a un axe prioritaire sur le volet environnemental, ce sont les espaces naturels sensibles, les ENS. Donc ce sont des milieux naturels qui soit accueillent une faune et une flore particulière qu'il faut préserver, soit où ce milieu naturel peut être impacté au jour d'aujourd'hui ou potentiellement impacté sur des projets d'aménagement, d'urbanisation, d'activités de loisirs. Et donc le conseil départemental de l'Aveyron fait appel à nous pour faire un état initial de la faune présente sur ces milieux. Et ça nous permet ainsi de hiérarchiser les différents enjeux et proposer des mesures de gestion aux gestionnaires de ces sites. Ensuite, une fois qu'on a hiérarchisé, on va mettre en place des suivis. Alors, les suivis, ça nous sert à évaluer les effectifs de certaines espèces menacées, à connaître l'évolution au fil du temps, afin de déterminer une tendance d'évolution des effectifs. Par exemple, est-ce que mon espèce, elle est en déclin? Est-ce que ses effectifs sont stables? Est-ce qu'elle est en augmentation? Donc, ces suivis, voilà, nous permettent d'évaluer l'état des populations. Alors, en Aveyron, on ne peut pas évaluer toutes les espèces d'oiseaux, par exemple. Par contre, on a une veille sur certaines espèces menacées, voire très menacées. Dans mes missions, je vais suivre l'évolution des pigrièches. Donc, ce sont des passereaux qui voient leur effectif diminuer de jour en jour à l'échelle nationale. Et donc, moi, avec toute mon équipe de bénévoles de la LPO, chaque année, on mène une enquête sur un territoire. Donc, si c'est pour la pigrièche méridionale, ça va être plus centré sur le Causse du Larzac, le Causse noir. Si c'est sur la pigrièche grise, on va se centrer plutôt sur le Lévézou et le Nord-Aveyron, avec l'Aubrac, la Viadène et le Carladaise. Et donc, cette enquête va nous permettre ensuite de savoir combien il y a de couples reproducteurs. Est-ce que d'année en année, est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a moins de couples? Et ces tendances vont être étudiées à l'échelle de l'Occitanie, avec d'autres collègues, d'autres associations naturalistes sur ce territoire. Et donc, on se rend compte que petit à petit, par exemple, la pigrièche grise, qui est en limite d'aire de répartition en Aveyron et en Lozère, avec des bastions en Auvergne, on s'aperçoit qu'elle est en train de disparaître, notamment du Lévézou. Et petite particularité aussi, on ne s'imagine pas que des espèces sont amenées à disparaître sur notre territoire français. On s'imagine toujours des espèces d'Amazonie ou d'Asie qui disparaissent, mais il faut savoir que, par exemple, il y a 2 ans, la pigrièche à poitrine rose, qui se reproduisait plus qu'en héros et en ode, elle a disparu totalement de notre territoire national.
Alors, il me semble qu'il y a d'autres pigrièches que la pigrièche grise et la pigrièche méridionale sur notre secteur.
Oui, en Aveyron, on a la chance d'accueillir 4 espèces des 5 pigrièches françaises. Et je ne vous ai pas cité la pigrièche à tête rousse qui se reproduit très sporadiquement sur notre territoire et très localisée. On n'en retrouve plus qu'une population sur l'ouest Aveyron et un petit peu sur le Causse-Cantal. Et puis la pigrièche écorcheur, par contre, qui est peut-être plus connue du grand public, qui a une pigrièche assez commune en Aveyron, avec un petit masque noir, un bec crochu. Et toutes ces pigrièches ont la particularité d'empaler leur proie sur des fils barbelés. Donc si jamais vous trouvez un grillon ou un bourdon empalé, sachez que ça peut être un indice de présence des pigrièches.
Alors les pigrièches sont de bons indicateurs de la santé des milieux. Mais leur milieu, justement, c'est quoi? C'est plutôt les bosquets, les haies, les prairies?
Alors effectivement, ce ne sont pas des passereaux forestiers, donc on ne va pas les retrouver en milieu forestier. C'est des espèces qui sont vraiment inféodées au milieu bocager, avec tout un réseau de haies arbustives et arborées, avec des buissons isolés aussi, et puis un type d'agriculture avec de l'élevage extensif, du pâturage, des prairies de fauche et une hétérogénéité des milieux.
Et sur ces autres pigrièches, on a aussi un déclin un petit peu des populations.
Alors tout l'enjeu est là, c'est-à-dire que la LPO a besoin de connaître les effectifs. Donc à l'échelle du département, on est en train de s'apercevoir que la pigrièche grise est en train de régresser. Par contre, on n'a pas encore assez de recul pour parler de la pigrièche méridionale ou de la pigrièche à tête rousse. Et l'écorcheur, a priori, va bien encore chez nous parce qu'on a un type d'élevage, un type d'agriculture qui est encore assez extensif comparé à d'autres régions comme le centre de la région dans le nord de la France où c'est très intensif. Nous, on a encore préservé et nos paysages méritent d'être préservés à l'échelle du département.
Donc, vous nous rejoignez, vous écoutez à Tire-d'Aile l'émission de la LPO, Délégation Territoriale Aveyron. Donc aujourd'hui, je suis avec Magali Trille, qui est une de nos chargées d'études. Magali, tu vas peut-être embrayer sur un petit peu les actions de gestion, de protection. en allant au-delà de ce qui est inventaire et connaissance.
Alors voilà, à la suite des inventaires, à quoi ça nous sert ? Ça nous sert à gérer des milieux et à les préserver. Donc on a un gros programme depuis 2006 où on accompagne les agriculteurs volontaires à la mise en place de façon autonome de mesures de gestion pour améliorer ou conserver la biodiversité dans leurs fermes. Donc depuis 2006, on a accompagné 86 agriculteurs. L'idée, en fait, c'est d'aller un instant T sur leur ferme, de discuter un petit peu avec eux des pratiques agricoles, de discuter de comment ils voient la biodiversité à travers leur ferme, leur parcelle agricole. Et ensuite, nous venons une journée avec mon collègue botaniste et moi-même faire des inventaires d'oiseaux, principalement de papillons de jour et de flore. Et à l'issue de ces inventaires, on synthétise toutes ces données et on va proposer à l'agriculteur des mesures qui, selon nous, seraient favorables pour accueillir ou conserver la biodiversité que nous avons détectée. Alors, il n'est pas... L'idée de départ, en fait, ce n'est pas de juger des pratiques ni de dire à l'éleveur ce qu'il faut faire. En fait, l'idée, c'est d'échanger ensemble et de voir ce qu'il est possible de mettre en œuvre sur sa ferme. Donc, c'est un programme qui marche bien et les agriculteurs sont volontaires et de façon autonome, par exemple, vont vouloir planter une haie entre deux parcelles. Donc, ce que leur propose aussi, c'est un accompagnement pour aller plus loin. S'ils sont limités d'un point de vue de moyens humains ou financiers, on va les orienter, par exemple, vers l'association Arbres et Paysages d'Aveyron, qui est un de nos partenaires. Et donc, eux, ils ont des programmes de financement qui vont pouvoir permettre de financer des haies. Et nous, on peut apporter... des moyens humains, c'est-à-dire qu'à travers nos bénévoles, on va organiser des chantiers nature pour planter des haies ou pour restaurer des mares s'il y a lieu d'être.
Peut-être tu peux nous donner aussi d'autres exemples d'actions que peuvent mettre en place les agriculteurs, les éleveurs.
Oui, alors outre la plantation de haies et la restauration de mares, il y a aussi la possibilité, par exemple, de faire une fauche centrifuge. Donc, c'est-à-dire que plutôt que de détourer du bord de la parcelle et d'arriver jusqu'au centre de la parcelle, on préconise, et puis grand nombre d'agriculteurs le font déjà, mais certains pas encore, on préconise de, par exemple, de faucher par bande ou de partir du centre de la parcelle pour que la faune ne reste pas piégée au centre de la dernière bande non fauchée et puisse sortir de la parcelle et se réfugier dans les haies aux alentours. Ensuite, d'un point de vue floristique aussi, on peut leur proposer sur un petit coin de parcelle, celle où il y a souvent un accident agronomique, où ce n'est pas rentable de le récolter, de laisser la biodiversité s'épanouir et puis de faucher un petit peu plus tard, plutôt en juillet. Et comme ça, les insectes pollinisateurs, les mammifères vont pouvoir mener à bien leur reproduction. Et ainsi préserver une partie de la biodiversité. Ensuite, c'était ce volet d'accompagnement des agriculteurs. Je mène aussi d'autres actions de préservation d'espace, notamment sur la restauration de réseaux de mares et lavognes sur le sud d'Aveyron. Donc, ce programme, en fait, il est piloté par le Parc naturel régional des Grands Causses, qui s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs acteurs qui travaillaient sur la même problématique. Et donc, il a décidé de mettre en place un groupe de travail, un groupe de réflexion sur le causse du Larzac. La problématique que l'on a sur le causse du Larzac, c'est néanmoins la présence de poissons, notamment de poissons rouges, dans les mares et lavognes. Donc, j'explique un petit peu ici ce que sont les lavognes. Donc, il faut se dire que les points d'eau constituent un oasis vitaux pour la faune sauvage, aussi bien la faune domestique en pâture. C'est aussi le refuge d'une végétation spécifique. Et donc en Aveyron, et plus particulièrement dans les Grands Causses, la récupération de l'eau a été essentielle par le passé pour que l'homme s'installe dans des milieux hostiles, comme l'Écosse. Et aujourd'hui, ces lavognes sont peu ou plus utilisées par les troupeaux, et certaines, par l'absence d'entretien, ne sont plus étanches ou vont voir leur accès inaccessible parce qu'il y a un développement d'une végétation ligneuse. Et donc, avec ces derniers épisodes de sécheresse placés dans un contexte de réchauffement climatique, ces points d'eau ont de nouveau un intérêt pour les éleveurs et puis nous, en tant qu'association naturaliste, pour la biodiversité autochtone. Et donc, on se rend compte que d'année en année, il y a de plus en plus de mares qui accueillent des poissons rouges. Et il faut savoir que les poissons rouges, dans des milieux clos comme les mares, n'ont pas leur place. Ils vont rentrer en concurrence alimentaire avec les amphibiens. Ils vont, avec leur technique de recherche alimentaire, notamment chez les poissons rouges, il y a des fouisseurs, ils vont remuer la vase sur le fond et ils vont du coup éviter le développement de végétaux aquatiques. Et donc, on aura toujours une suspension de boue dans la mare, mais pas de végétation aquatique qui se développe. Et ensuite, en plus de la concurrence alimentaire, ils vont aussi se nourrir de larves d'amphibiens, de larves de libellules. Et toute cette biodiversité autochtone va disparaître peu à peu. Et donc, nous avons décidé de mener des actions avec des groupes scolaires, notamment avec l'école de Saint-Jean-d'Alcas. Ma collègue animatrice est intervenue 3 fois dans cette école-là. Et à l'issue de ce module pédagogique, donc on expliquait une mare avec poissons rouges et une mare sans poissons rouges, quelles étaient les différences d'un point de vue de la biodiversité. Donc les élèves sont amenés à avoir des réflexions et à avoir un certain intérêt scientifique dans ce module. Et à l'issue de ce module, en fait, on vient sur la commune et on vidange une lavogne qui est colonisée par les poissons rouges. Donc ça, on le mène depuis 2017. Et puis cette année, au mois de novembre, nous avions axé nos actions sur la commune de La Couvertoirade avec le parc naturel régional des Grands Causses. Et donc, on est venu avec les élèves de la MFR de Saint-Cernin, en BTS. Ils sont venus nous prêter main forte pour vidanger une lavogne qui était colonisée par une centaine de poissons rouges. Donc, l'idée, c'est de vider l'eau, ensuite de curer la boue et de mettre d'un côté les poissons rouges dans un bac et de l'autre, les quelques amphibiens et larves de libellules qu'on peut encore trouver à cette saison. Mais c'est une période de transition où il y a vraiment plus de faune à cette époque. Donc on est moins impactant en vidangeant la mare. Et donc l'intérêt d'avoir vidangé cette mare sur la commune de La Couvertoirade, c'est notamment pour le pélobate cultripède, qui est un petit crapaud trapu. On l'appelle le crapaud à couteau parce que sur ses pattes postérieures, il a des excroissances qui lui permettent de creuser et de s'enfouir dans la dolomie, qui est un sable spécifique sur l'Écosse. Et donc ce petit crapaud, figurez-vous qu'il est en forte régression dans le département. À l'origine, il n'était que sur le Causse du Larzac, sur la commune de Cornus et de La Couvertoirade. Et en fait, là, il est plus présent uniquement sur La Couvertoirade et que dans une ou deux lavognes. Donc voilà, c'est une espèce vraiment en nette régression. La population, elle est plus héraultaise, mais pour le département de l'Aveyron, je le répète, on ne le retrouve plus que sur 2 lavognes du département.
Oui, tout ceci est extrêmement intéressant, mais je vois que le temps file très vite. Alors, est-ce que quand même tu peux nous parler de tes 2 dernières missions très brièvement, quitte à y revenir peut-être lors d'une prochaine émission?
Oui, alors très brièvement aussi, on fait de l'accompagnement auprès des communes pour un atlas de la biodiversité communale. Donc si les communes sont intéressées, sachez que ça existe. L'idée, c'est d'impliquer l'ensemble des acteurs d'une commune, élus, citoyens, associations, entreprises, en faveur de la préservation de leur milieu naturel, de leur patrimoine naturel. Donc en accompagnement, la LPO vient faire des inventaires sur différents groupes d'espèces et on cartographie les enjeux de biodiversité à l'échelle de ce territoire. Donc pour la commune, en fait, c'est un outil d'information et d'aide à la décision qui facilitent l'intégration des enjeux de biodiversité dans leur démarche d'aménagement et de gestion. Voilà. Et pour terminer, une vie associative sans bénévoles, ça n'existerait pas. Donc j'accompagne tout un réseau de bénévoles actifs. Il existe une liste de discussion. Dès qu'on a besoin d'aide, on diffuse les informations sur les chantiers nature, sur les tenues de stand, sur des comptages d'espèces, soit en hiver, soit au printemps. Et donc, dernièrement, s'est tenu des stands dans des biocopes pour le Local Friday, qui est un peu un contre-pied du Black Friday. L'idée, en fait, c'est que la marge brute sur la vente de produits locaux est reversée pendant 2 jours à la LPO sur des actions pour lesquelles nous ne pouvons pas les financer par ailleurs par les pouvoirs publics. Et donc, dans ce cadre-là, on a fait un appel auprès de nos bénévoles pour tenir des stands. Et donc, une vie associative est vraiment active grâce à tout ce réseau de bénévoles.
Alors, merci Magali, tout ça est extrêmement intéressant et je pense que ces derniers points mériteraient qu'on puisse y revenir lors d'une prochaine émission. En tout cas, vous avez pu voir un petit peu quel était le travail d'un de nos salariés. On voyait qu'il y a beaucoup d'actions à mettre en œuvre et ça demande beaucoup de contacts et de partenariats aussi. Donc merci de nous avoir suivis, je vous souhaite une bonne continuation et vous dis à très bientôt.
CFM. CFM Villefranche.